amateurs de hip-hop et de bonnes vibes, rendez-vous les 28 et 29 juin au skatepark de Montauban pour le festival Légendes Urbaines.
Bon, alors là, ça va pas être possible parce que les trucs mal mixés avec une voix complètement sur une piste, ça n'est pas bon.
Vous écoutez Radio FMR, nous sommes le samedi 8 juin 2013, nos programmes pour cet après-midi, pas du sport, donc une fin de supplément week-end à 13h30, on verra jusqu'à tout ça, ça nous mène à 15h du reggae avec Janot Dead, même si c'est pas Janot Dead, et à 17h, FMR c'est de l'antenne à Booster FM sur les 89.1 MHz, mais dans l'immédiat, voici la spéciale bestiaire de Pierre Belmar, que vous attendez tous.
Formidable!
Précédemment dans le supplément week-end.
Il était dans son livre.
Non, mais il répond jamais au courrier.
De toute manière, il suffit déjà de regarder la télé avec des séries comme Les Assassins de l'espace pour savoir comment se débarrasser des humains.
Voilà.
Tu vas voir qu'il me fait le coup. Attends, j'ai déjà assez avec le courrier de la radio. Hein. T'as vu ce qui est arrivé ce matin? Il nous chie une pendule parce qu'on a reçu France Dimanche.
Ah non!
À la place du voisin.
Avec DSK en couverture.
Ah, génial!
Ah,
avec un film sur lui bientôt.
C'est le premier samedi du mois.
Oui, t'es horrible. T'as pas le droit de dire ça, franchement. On va te crypter, hein.
Radio FMR présente. Le supplément week-end. Le magazine des cultures geek. Avec du sport. Ultimatum. Das Creek. Et la participation exceptionnelle de JB.
Bonjour et bienvenue, celle-ci Cyril est pour toi. Voici comment on fait une émission en direct. Bonjour Ultimatum.
Salut Despic.
Ça,
avec le micro c'est mieux.
Avec salut, le micro c'est mieux.
Ça fait vachement longtemps que je t'ai pas venu, tiens. Ça a pas changé du tout.
Il pleut toujours autant.
Par contre, j'ai rien compris à ton pré-générique.
Qu'on était vraiment absolument pas en forme et que du sport était monté alors que c'était à lui, en même temps qu'il y avait le courrier qui était arrivé, et juste avant l'émission, il m'a tenu la grappe pendant 5 minutes en hurlant, en disant « Non mais franchement, il fait chier le facteur, regarde, il m'a foutu France Dimanche en plein milieu, etc. » Et il était obsédé par ça avant le direct, c'était intenable.
Intenable.
Bonjour une facette grunt.
Bonjour la Screech, bonjour Thomas.
Ça va bien.
Un peu stressé là.
Ça va être sa première rubrique, donc évidemment.
Ah ouais, jamais chroniqué de BD avant?
Pas de BD. À chaque fois j'étais invité, mais je n'avais pas à faire une chronique.
Ah, je croyais. Ah ben oui, je comprends mieux le sens de tes tweets à présent.
Oui, je vais te dire. Quand la Screech m'a appelé.
Le sens des tweets va toujours dans le sens chronologique.
Oh punaise.
Aujourd'hui, c'est une spéciale monstre à la Belmar. Pourquoi Belmar? Parce que Belmar, du haut de ses pratiquement 80 ans, lui, il n'a pas vieilli et tout ça. Et sa consensualité, il ne le fait pas. Alors que vous prenez Deniso, ça, on peut parler de monstre sacré de la télévision. Et on sera bien content qu'il se barre parce que c'est un monstre consensualité. Mais je ne parlais pas de...
Aujourd'hui, mais à l'époque, quand il faisait des interviews de Coluche sous la piscine... Ouais, c'était quand même plus rock'n'roll.
Déjà, si la génération de Michel pouvait partir en général.
Oui. 67 ans.
Voilà.
Exactement. L'âge de faire une révolution, comme on dit. Spécial monstre, spécial freaks aujourd'hui. Entre guillemets, au pied levé. Comme oui. Cela, avec ma foi un animateur américain que j'apprécie beaucoup personnellement.
Moi aussi, j'aime bien.
Ma foi un dessinateur qui fait super bien les loulous des filles, et c'est pour ça qu'on l'apprécie beaucoup. Il n'y a pas que ça qu'on apprécie chez lui d'ailleurs, hein. C'est aussi sa franche camaraderie et sa descente d'alcool et de bande dessinée en crowdfunding. Bref, cela c'est le thème du jour. Néanmoins, c'est un samedi qui commence très mal, personnellement, pour moi. Primo, ça n'est absolument pas pour l'émission spéciale qui était en cours de construction pour la semaine prochaine et qui va se faire d'une manière très différente. C'est-à-dire qu'on l'aurait fait en direct du CNES. Finalement, ça se fait pas. Ça, on le comprend tout à fait. Primo, parce que faire une émission dans leur centre de contrôle au moment où ils ont à charge un obus lancé depuis la Terre pour rejoindre la station spatiale, si possible, sans le percuter, mais en l'amarrant bien...
chaud.
Chaud quand même. Donc voilà, donc
pour les créneaux.
Oui, surtout qu'il faut pas se différencier. Ils sont capables quand même de faire des mélanges du style kilomètres en miles.
Non, pas les Français justement.
Ouais, c'est ça l'avantage.
Voilà, c'est ça l'avantage. Ça, on en parlera peut-être la semaine prochaine justement parce qu'on va essayer de voir si on peut les avoir en interview. Ce serait bien et en même temps, on ferait une spéciale Star Trek. Ce qui quand même serait extrêmement bien. Non, franchement, ce qui me déprime énormément, c'est de savoir que l'une des BD les plus gnangnans jamais sorties aux États-Unis va être adaptée au cinéma. Ça me fait extrêmement mal, personnellement.
BD gnangnan.
Oula, j'en ai une collection, mais j'arrive pas à sélectionner la bonne.
Oula.
J'ai oublié le nom, voilà.
Aïe.
Attends, ouais, bah, oui, bah, ça arrive.
C'est que des BD gnangnan.
C'est Archie.
Ah
Archie, je sais pas si vous connaissez, c'est quand même un truc qui date du début des années 40. Archie, c'est vraiment le petit bouseux de campagne et tout ça, tu vois, avec l'amour qui n'ose faire laisser des gags un peu prime sautier. Si vous voyez un petit peu le genre, je vais dire, comment dire, Happy Days mais sans Fonzie.
Oui.
Ah oui, quand même.
Voilà, bah à ce point. Donc c'est vraiment une certaine Amérique.
C'est sucré comme c'est vraiment très sucré.
Oui, à ce point-là. Donc c'est dire si c'est vraiment quelque chose de.
Voilà. Si c'est réchauffé en plus, c'est du caramel. Allez.
Bah même pas. Quoi. C'est ça pue la rose. Enfin bon, bref, savoir qu'ils vont adapter ça au cinéma. Moi, j'attends pas grand-chose, mais c'est, je pense que ils auraient pu prévoir quelque chose un petit peu mieux. Bon, bah, on verra ça. On va commencer avec une bande dessinée qui, moi, personnellement, me fait extrêmement plaisir. Extrêmement plaisir parce que ça parle d'un des auteurs de bande dessinée que j'apprécie énormément. Un auteur de l'âge d'or de la bande dessinée franco-belge, à savoir Maurice Thilleux. Malheureusement, donc cette bande dessinée de Basile, Monsieur Maurice et la Dauphine Jaune, qui vient de sortir dans la collection Très étrange chez Glénat, eh ben, vous aurez vraiment du mal à comprendre cet album si vous ne connaissez pas un petit peu Maurice Thilleux. Et pour cela, il n'y a qu'un seul moyen de faire. Bah, il faut vous donner un cours de rattrapage, comme ça, rapidement, zou. On va vous expliquer un petit peu ce que c'est. C'est une petite bio, c'est un auteur qui est méconnu, malheureusement, mais ultra prolifique de la bande dessinée franco-belge d'après-guerre. À vrai dire, il était vraiment entre les deux nations, réellement. Il dessinait dans la plupart des styles, mais il s'était montré très bon dans un style quasi réaliste, en tout cas un peu proche de Tintin, je veux dire, même s'il n'aime pas qu'on le rapproche d'Hergé. Vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi pourtant, ce n'est pas en tant que dessinateur qui est le plus connu, quoique, mais plutôt en tant que scénariste. En fait, sa production est tellement vaste que j'ai dû rouvrir le Larousse de la bande dessinée à son sujet ce matin. Et j'en découvre continuellement sur lui, moi qui croyais connaître son œuvre. Il a écrit quelques romans policiers, mais c'est surtout dans ce genre, d'ailleurs, justement, qu'il va exceller. Après avoir collaboré pour de nombreux magazines, dont Spirou, il entre aux éditions Heroic Album en 1947, où il crée le personnage du journaliste enquêteur Félix, accompagné d'un personnage filiforme qui s'appelle Allume-Gaz, particulièrement distrait. Je me souviens quand même d'une histoire où Allume-Gaz tente de se suicider en se pendant par les aisselles. Enfin bon, vous voyez le genre. Et l'irascible inspecteur Cabarès, il résoudra de nombreuses affaires policières, des fois tournant à l'espionnage ou au complot politique. Un vrai polar, mais avec beaucoup d'humour. En 1954, Maurice Thilleux crée un nouveau personnage, Gilles Journain, qui est à son jour le plus connu. Il le crée en fait spécifiquement pour les éditions Dupuis, pour avoir une collaboration beaucoup plus régulière chez Spirou. Et malheureusement, et ben, c'est bien à tort qu'on connaît Gilles Journain, parce que figurez-vous que Maurice Thilleux ne s'est absolument pas embêté. Il a bien souvent repris des intrigues qu'il a créées pour Félix, qu'il corrige, adapte ou complète, voire raccourcit pour rentrer dans le cadre des 48 pages couleur des albums Dupuis, excusez-moi, parce qu'en plus il donne la bonne prononciation dans le bouquin. Sans compter qu'après, il a écrit pour des dessinateurs comme Will, Roba, Goss, François Valtteri, Roger Leloup, Leonardo. Il est intervenu comme scénariste sur un nombre incalculable de séries Dupuis, au point d'en devenir le scénariste star du journal de Spirou entre 66 et 78. Alors l'album Monsieur Maurice n'est pas une biographie exacte,
C'est romancé, c'est rigolo. C'est basé sur les témoignages de ses proches. Et c'est vrai que j'avais entendu qu'il avait une imagination capable de démarrer au quart de tour, capable de très étranges lubies, comme par exemple de s'intéresser à des docks de ports industriels plutôt que passer du bon temps en famille à la plage, et capable de rester des heures à regarder une route accessible uniquement à marée basse, à marée haute comme ça, donc dans sa voiture avec sa famille. Ça l'amuse. Bref, il faut dire aussi que Maurice Thilleux aurait tenté le concours de capitaine de marine marchande avant de trouver sa voie dans la bande dessinée. D'ailleurs, de passage à Saint-Nazaire, il ferait une crise de jalousie envers Hergé qui avait illustré le port dans Les Sept Boules de Cristal. On le verra avec Bob Demort, dont il aurait emprunté le nœud papillon pour son personnage de Gilles Jourdain. Ceci très exactement 2 minutes avant le rendez-vous avec Dupuis. Donc c'est vraiment un furieux de ce côté-là, capable de crobardiser d'une manière extrêmement rapide un scénario ou un dessin. Avec François Walteri, avec qui il confiera que bien souvent il ne savait pas comment terminer ses intrigues. D'où peut-être cette histoire où, à court de temps pour résoudre une affaire, eh ben, Félix se retrouve noyé dans une bulle de texte qui prend un tiers de la planche. Tout ça pour dérouler en fait complètement l'histoire. C'est un incident qui était resté célèbre, hein, qui est enseigné dans les écoles de scénaristes. Ou encore avec Will, avec qui il vend à son éditeur que le fait de passer un week-end à Londres lui permettra d'étoffer un script. Script qui n'a même pas encore la première idée du scénario. Donc il y va comme ça, et en fait quand ils reviennent, comme ils ont absolument pas la documentation, ah, comment on fait? Et bref, c'est un gag, ça fait partie des histoires absolument délirantes, et c'est là qu'on mesure son génie, capable de rebondir en moins de 2 minutes sur une histoire complète alors qu'il n'a strictement rien préparé. L'album n'a pas hérité malheureusement du génie de Thilleux sur le plan de la lisibilité. À vrai dire, il est vraiment dessiné de manière rough et beaucoup trop rough. Alors que Thilleux, justement, c'était vraiment, c'est pas la ligne claire, mais c'est l'école un petit peu grônée. Mais ça reste une lisibilité et d'une qualité de lecture qui est absolument exceptionnelle. Franchement, je vous enjoins à essayer de retrouver les vieux Gilles Jourdain, mais surtout les Félix qu'il a dessinés. Vous comprendrez ce que je veux dire de ce côté-là. Et c'est peut-être finalement la bonne vertu de cet album. Monsieur Maurice et Adolphie et la Dauphine Jaune m'a justement donné envie de relire du Thilleux, du Thilleux d'origine et tout ça, parce que c'est vrai que c'est un souvenir d'enfance, et parce que justement il a vraiment cette patte de ce côté-là. Monsieur Maurice et la Dauphine Jaune, c'est de Basile, c'est dans la collection Très Étrange chez Glénat. On a un peu du mal à rentrer dans le dessin, c'est un petit peu dommage. C'est vraiment dommage.
C'est très chargé, puis je trouve aussi que la façon d'écrire les textes, c'est vraiment pas, ça aide pas à plonger dedans parce que c'est très très illisible et ça oblige à faire un effort encore plus soutenu. J'aime pas du tout ces styles graphiques où la typo est un peu originale. Bon, voilà.
Moi, je reconnais que bon, là, j'ai regardé quelques planches. Bon. À part les anecdotes qui sont assez croustillantes quand on connaît Monsieur Maurice, le Maurice, c'est vrai que j'ai vraiment du mal. C'est vrai que par le style artistique, j'ai vraiment du mal à y rentrer dedans.
C'est vraiment extrêmement dommage parce que c'est fouillé, c'est intéressant ce qu'il y racontait.
C'est vrai que c'est intéressant parce que c'est des anecdotes, c'est un peu une biographie de Maurice, mais j'ai du mal avec le style. J'ai vraiment du mal avec le style, franchement.
Dommage. C'est dur. On va dans tout à fait autre chose. Maurice Thilleux avait été allé une fois en Bretagne et avait fait une histoire fantastique sur l'ambiance complètement désolée, la Bretagne complètement désolée. Mais il était allé en vacances là-bas avec sa famille, où il n'y a strictement rien à faire. Et lui, il en a fait un album formidable. Eh ben là, on va dans le fantastique justement, et Monsieur l'Ultimatum a des nouvelles de quelqu'un qu'on apprécie bien ici.
Oui, Florent Modou, le retour de Florent Modou, puisqu'il a le bourg, il a beaucoup d'actualité, chaque année il nous propose pas mal de choses autour de son univers Freak Squill. Ça tombe bien, aujourd'hui c'est une émission 90% spécial Freaks. Donc ça tombe bien, nous allons à nouveau parler de Freaks Quill via un spin-off de la série dont nous sommes très très fans ici et dont nous avons chroniqué chaque parution de tome. Cette fois-ci, c'est bien et bien du côté obscur que commence à s'engouffrer Freaks Quill, puisque le spin-off ça s'appelle Funérailles
Et les connaisseurs de la série mère, ils savent que Funeral, c'est le nom d'un des personnages, c'est le personnage manchot et au visage semi-ravagé, avec une chaîne, une lame brisée au bout de la chaîne qui évoquera certains souvenirs émus chez les fans de certains cinémas hongkongais, de Tsui Hark en particulier.
Mais qui, à mon avis, en tant que prof, doit pas faire rire.
En tant que prof, il fait pas rire, effectivement. Alors, Funeral, quelques mots voilà, sur la série mère. Bon, Freak Squill, c'est une série entre second humour second degré, puis une série autour de l'univers des super-héros, puisque c'est une école qui forme des super-héros. Au cours de l'aventure, on s'aperçoit qu'ils forment des super-méchants. On découvre qu'il y a un immense background derrière les personnages et derrière cette institution-là, puisque le bougre de Florent Maudoux, sous ses dehors de gros lolo, concours dans le vache de Pareo et les blagues en dessous de la ceinture, mine de rien, il arrive à convoquer les grandes figures du fantastique et tu t'aperçois au fil des tomes que l'univers est assez vaste, tout est maîtrisé, le scénario, mine de rien, tu vois qu'il sait où il va. Et puis finalement, quand tu vois les spin-offs, tu te rends compte que tout est déjà installé dans l'univers principal dès les deux premiers tomes, en fait. Et tu regardes, tu relis les premiers tomes, tu dis mais attends, mais il en parlait déjà là-dedans.
Oui.
Alors t'avais pas fait gaffe au début.
C'est toujours dans les détails que tu.
Et tu vois, il a l'impression de maîtrise le bourre. Franchement, plus je lis, plus je dis ouais quand même. Alors Funeral, c'est un univers complètement parallèle. À la série originelle Freak Squill, il faut savoir qu'il y avait déjà eu un spin-off officiel qui s'appelait Rouge. Maudou était au scénario, mais c'était Souria qui était au dessin, qui était plus une bande dessinée sur la quotidienneté du récit avec un esprit un peu plus manga. Il y avait aussi des spin-off sur la mère de Chung Mao qui avait été livrée par Florent Maudou à travers les doggy bags. Alors cette fois-ci, Funeral, voilà, ça raconte justement le destin de Funeral qui a un frère jumeau également, le frère jumeau qu'on retrouve aussi dans Freak Squill, qui est le directeur de l'école. Hein. Les jumeaux qui sont, je vais retrouver Scipio et Pretorius. Voilà. Alors, bienvenue dans le royaume ultra sombre de Rem. Les images diffusées par les cyclopes font et défont des héros portés au statut de dieu. Les habitants viennent au monde selon le principe de la loi du plus fort. Le système des fœtus dans cet univers parallèle. Deux jumeaux se battent dans le ventre de la mer. Le vaincu ne voit jamais le jour. Mais il arrive que les deux frères ne se battent pas et que deux êtres parfaits soient enfantés par la même mère. C'est tout simplement le début d'une prophétie qui annonce la fin du monde.
Oh merde.
C'est le début d'une apocalypse. Alors du coup, Scipio, c'est l'héritier légitime d'un grand maître de guerre. Son frère, c'est Pretorius. Pretorius, c'est Funeral. Scipio, c'est le directeur de l'école dans Freak Squill. Pour échapper à l'apocalypse annoncée, le Pretorius, en fait, il est jeté au cochon pour qu'il soit bouffé vite fait bien fait en 10 minutes. Sauf que la sage-femme arrive à le sauver d'extrémis, pas suffisamment pour sauver l'œil mutilé et le bras qui manque. Sauf que il va échapper à l'apocalypse. Enfin, il va échapper au destin funeste. Et donc, tu vois grosso modo ce qui va arriver après. C'est un tome 1, donc. Plantage d'univers, on expose les tenants et les aboutissants, on présente l'univers, on présente les personnages, on présente les arcanes du pouvoir avec les multiples complots dans l'ombre et au détour de quelques colonnes gothiques. Il y a du Game of Thrones.
Voilà, j'allais te dire, c'est du goth, ça.
C'est tout à fait assumé, puisque Maudou, quand il fait des références, il y va pas par quatre chemins. Il dit, c'est référencé comme ça, je vous l'annonce, et j'y vais à fond. Donc là, du Game of Thrones, pur jus, avec les sacrifices de personnages torturés, avec ce qu'il faut de cruauté et tout. Comme dans Game of Thrones, il n'y a pas de souci. Dans Game of Thrones, il y a la nudité, il y a des femmes à poil. Là, pareil, Maudou, il se fait plaisir parce qu'on a vu dans les différents tomes de Freak Squill que
ça se vend.
Ça se vend, que le mec, il aime ça et qu'il le fait bien. Donc là, on voit la splendide couverture de la nana qui est à moitié dénudée.
Oui.
En fait, on peut voir en feuilletant la BD que c'est une civilisation un peu décadente, avec, on va dire, une grande proximité charnelle entre la mère et les enfants. Y a beaucoup de choses qui sont faites à partir autour des eunuques aussi. Il y a aussi des eunuques. Tiens, tiens, Game of Thrones, il y a un eunuque aussi. Bon, voilà. Alors, par contre, au début, tu te dis « what the fuck ?» Tu te dis « quel est le lien ?» avec Frisquill, comment il va retourner sur ses pattes. Tu lis les pages, tu te dis est-ce que c'est pas un petit peu gratuit? Est-ce que c'est pas justement, on s'enfonce pas dans une espèce d'obscurité généralisée où on se demande où il va? Et puis dans le dernier acte, tu te dis ah quand même. Tu te dis ah quand même, ah quand même. L'univers que tu vois là, tu te dis finalement, est-ce que ce serait pas Frisquill, le spin-off de Funérailles? Franchement, parce que là tu vois un univers, mais tu te dis, mais tu es sans voix. Dernière image, tu te dis, ouais, ben, je veux voir la suite de suite, direct. Moi, Frisquill, il peut attendre 10 ans avant de se prendre la suite. Moi, je veux la suite de Funérailles, en fait. c'est impressionnant. Franchement, c'est impressionnant. Tu voyais vraiment que Florent Modou, c'était pas du tout l'auteur de, justement, comme on a vu tout à l'heure, des blagues à deux balles, les trucs parodiques. Voilà. Tu voyais que c'était quand même un auteur en deux, un grand auteur en sommeil. Là, tu vois qu'il commence à avoir un trait qui sent la maturité, une histoire également. La claque. Franchement, j'ai refermé le bouquin. Je me suis dit, ah ouais, je m'attendais pas à ça. À lire, franchement, pour les amateurs de Frisquill et les amateurs de voilà, de Game of Thrones, d'univers un peu sauvage, avec il renverse tous les partis pris que tu pensais avoir ingéré dans la série mère. Tu vois qu'il y a plein d'ouvertures possibles, avec des familles dont les lignées tu vas les suivre avec une grosse attente et avec un certain plaisir. Voilà, d'un revers de hachoir, il te renverse tout ce que tu pensais connaître de sa saga, et en fait tu t'aperçois que tu connais rien et que tu ne demandes qu'à être à nouveau ébahi. Voilà, Funérailles tome 1, le premier tome, ça s'appelle Fortunate Sons en anglais. Et voilà, de Florent Modou, de chez Ankama, et c'est une grosse baffe.
Ok.
Ah oui, grosse baffe. Ça, y a pas à dire.
Je veux dire.
Vous écoutez Radio FMR midi, 24 minutes sur la poubelle des radios, émission numéro 351 du Supplément Week-end. Voilà. Eh ben, c'est à toi. C'est parti.
Hey, mon Dieu.
Non. Vas-y.
Allez, je vais vous parler d'une BD, enfin c'est plus un manga édité chez Amilova qui s'appelle Full Moon. Scénariste et dessinateur, c'est Blood Wolf, aidé de Steph Solaris.
Ce sont des Français ?
Oui.
D'accord.
Derrière leur pseudo, ce sont des Français. C'est publié chez Amilova qui est un site de prépublication sur internet.
Donc là, ça sent la grosse référence, parce que là, je crois reconnaître des personnages déjà sur la couverture.
Voilà. Ouais, mais okay, je vais te dire, ce n'est que de la ressemblance, parce qu'au final,
ah ouais,
ce n'est que de la ressemblance.
Donc il n'est pas question du tout de Cobra ou de City Hunter, alors.
Nullement. Nous sommes sur une histoire de loup-garou. Okay. Chris Wade, celui que tu penses être Ryo Saiba, est en fait un agent de police de la ville de Boston. Un jour, alors qu'il rentre chez lui, il entend une femme qui se fait agresser et essaye de sauver la personne. Malheureusement, il est attaqué. En fait, la personne est attaquée par une bête mystérieuse. Cette dernière va l'attaquer également. Gravement blessé, il est secouru par Cathy, une collègue policière qui était de faction. Et en fait, qu'est-ce que c'était que cette bête ? C'était un loup-garou. Le problème, c'est que quand on se connaît en loup-garou, c'est obligé que la personne qui se fait mordre par notre loup-garou devient lui-même un loup-garou.
Et ouais.
Mais le truc qu'il y a, c'est que il est inspecteur de police, donc du coup, on en lance une enquête. Et c'est à ce moment-là qu'on découvre que d'autres personnages apparaissent. Du coup, ce nouveau loup-garou doit apprendre tout ce qui fait la vie des loups-garous, c'est-à-dire comment vivre, comment accompagner sa mutation, j'ai envie de dire, en loup-garou, mais également affronter leurs ennemis héréditaires, les vampires.
Donc, oui, forcément.
Forcément. Mais ça, c'est l'histoire qu'on te présente. Et ensuite, tu as une deuxième histoire où là, malheureusement, on se rend compte que les loups-garous et les vampires ont un passé commun, mais vraiment ancien. Classique, j'ai envie de dire.
The World.
Ah non, même pas.
Non,
même
bon,
pas.
D'accord.
Moi, je trouve en fait qu'il s'est plutôt inspiré du côté des jeux de rôle, qui
se nomme Loup-garou l'Apocalypse et Vampire la Mascarade. Et en fait, on se retrouve un peu dans l'univers de ces jeux.
Dans cette mythologie, quoi.
Ouais, dans cette mythologie-là. Mmh. Avec des loups-garous qui sont au milieu de la population, loups-garous, vampires.
En clair, les vampires sont divisés en différentes castes. Ils se la pètent un peu. Oui, ils sont plus forts que les humains, mais en fait, ils craignent les loups-garous parce que les loups-garous sont plus forts qu'eux. Mais on se rend compte très vite que les vampires, ben. c'est quand même le bas du panier.
T'as juste oublié qu'il y avait les mages aussi, mais bon, ça, c'est.
Je dis que c'est le bas du panier et qu'il y a beaucoup de choses au-dessus d'eux, quoi.
Voilà. Donc, outre les ressemblances des héros avec des personnages connus de manga ou de jeux vidéo, t'as cité Cobra, t'as cité City Hunter. Bon, moi j'ai d'autres personnages aussi en tête, mais c'est complètement en fait, c'est juste l'apparence qui est comme ça. Après, c'est une histoire qui est propre et c'est moi c'est quelque chose qui m'a attiré du fait que c'était original parce que c'est vrai que ça prend des personnages. Je me dis bon, ça va être encore une énième fanzine sur City Hunter ou ces trucs comme ça. Mais c'en est pas un réellement côté historique. Je préfère qu'ils en prennent juste les caractéristiques pour qu'on ne soit pas perdu.
Alors par contre, moi mon avis en feuilletant, oui, c'est non. Que ça se voit que c'est quand même une BD amateur oui. Au niveau du dessin.
Mais il faut dire que c'est le premier, c'est celui où il met en place, on va dire, tout l'univers, l'histoire et autres. Mais quand on lit la prépublication sur Amilova, tu vois qu'après il développe un peu plus son style, un peu plus son.
En tout cas, on voit que c'est quelqu'un qui a très vite chopé les règles pour ameuter, on va dire, le fan. Enfin, sans pour autant être péjoratif par rapport aux fans de manga, c'est quand même quelqu'un qui a chopé au niveau le oui. potentiel commercial de certaines, certaines postures de
non,
nana.
Non, ça c'est la BD franco-belge.
Faut dire qu'Amilova est quand même un site de prépublication spécialisé dans le fanzina. Dans les publications qu'ils ont, on trouve par exemple Super Dragon Bros, ouais, Dragon Ball okay. Multiverse ou un journal d'une Potter Geek. Donc tu vois, on sait. Mais là, cette histoire-là justement sur cette prépublication, elle se démarque du reste. C'est-à-dire, d'accord. C'est pas un fanzine tel qu'on on peut le voir, mais en même temps. C'est, on retrouve tous les codes du manga. Moi, j'ai apprécié justement le fait que dans cet univers-là, ça se démarque.
Franchement, hormis le côté vraiment fanzine où il faut rentrer dedans et tu te dis bon, ok, il faut accepter le fait que c'est pas un professionnel. Bon, voilà. J'ai pas vu l'histoire, j'ai pas lu les bulles. Moi, selon moi, si tu me dis que ça c'est du fanzina, par rapport à la première BD chroniquée par Xavier, je vois qu'il y a un effort sur la typo qui est en retrait, qui est tel qu'on pourrait l'avoir chez Kana par exemple, mm-hmm. qui est tout à fait lisible. L'enchaînement des situations au niveau découpage, ça va. Ça fonctionne bien, les bagnoles sont bien dessinées, certainement le mec s'est peut-être aidé avec Manga Studio, mais on voit que le mec il a pas peur de faire des décors, on voit qu'il y a un petit peu de maladresse au niveau du trait, mais franchement je trouve que c'est efficace, ça fonctionne. Les scènes de nuit, on voit que c'est de nuit, on voit qu'il a le sens de la mise en scène également. Franchement, je trouve qu'effectivement, sans l'avoir lu, c'est quand même le haut du panier.
Alors,
de Fanzina.
Ouais. Je vais te dire une chose. Moi, je l'ai découvert parce que Amilova, vu que au TGS, ils sont présents sur le TGS, et il se trouve que bon, ils ont leur tête de gondole qui est Dragon Ball Multiverse, et ensuite ils amènent quelques-uns de leurs auteurs. Donc j'ai un peu discuté avec l'auteur. Il m'a dit bon, ça c'est en gros une quatrième ou une cinquième version de l'œuvre originale, mais finalement je trouve qu'elle est réussie, quoi. J'ai envie de dire
elle est mature
par rapport à ce qu'on peut voir sur la prépublication par exemple.
Donc les références,
alors c'est Full Moon de Blood Wolf aidé de Steph Solaris, c'est chez Amilova. On peut aussi également trouver le livre, elle est en vente chez Amazon.
Voilà, donc disponible chez libraire et en ligne.
Non,
vous écoutez radio. tu as vérifié chez je crois qu'il est chez BDciné en fait. Donc voilà, vous écoutez Radio FMR 89.1 MHz, c'est midi 30. Oui, je sais. Voilà, je me fais secouer par la régie finale. Bah oui, bah les pubs. Yeah.
8 juin 2013, retrouvez un quartier attachant et populaire au plein cœur de Toulouse. Le festival Belfortissimo, organisé par l'Étoile de Belfort, vous propose de faire la fête dans ce quartier à partir de 10h du matin. Un marché de créateurs, de la cuisine du monde, des spectacles pour enfants et toute la famille, ainsi que des concerts dès 15h. Avec Maïso, Glucose, Azucar, les Troubadours, Dreamy Dogs, Fire Dog Empire, Bad Grass et Desperanza. Jusqu'à 1h du matin et c'est gratuit. Toutes les infos sur le www.belfortissimo.org. Belfortissimo, le 8 juin 2013, place de Belfort à Toulouse, en partenariat avec Radio FMR et Radio Booster sur le 89.1 MHz de la bande FM à Toulouse. Y a pas que du beurre, alegria, moi les filles de joie, vous du con, c'est le bonheur.
Du 7 au 9 juin, les branleuses fait son festival. Pour cette troisième édition, rendez-vous dans différents lieux de la ville et essentiellement à la chapelle à Toulouse, au 36 rue Daniel Casanova. Le vendredi 7 juin, à partir de 18h, les femmes font leur cinéma avec des projections et débats. Le samedi 8 juin, en journée, place aux ateliers de formation en non-mixité. Et à 18h, théâtre satirique avec Princesse Diane, suivi de plusieurs concerts. Le dimanche 9 juin à 11h30, c'est le brunch de l'ébranleuse avec la présentation des ateliers qui ont eu lieu au cours de l'année. Du 7 au 9 juin, c'est le festival de l'ébranleuse. Bar et petite restauration sur place. Plus d'infos sur le site lesbranleuses.over-blog.com.
Atelier Bakélite, le samedi 8 juin de 9h30 à 2h du matin. C'est dans les spacieux ateliers du Théâtre Garonne que se déroulera cet événement global et solide. Les ateliers Bakélite s'articuleront autour d'une série d'interventions créatives et sonores dans un lieu repensé par les scénographes de Bakélite. La journée anniversaire se déroulera en deux temps avec une programmation de jour et une programmation de soirée. Un événement complet avec tout au long de la journée et ce à partir de 9h30 des conférences ponctuées de performances artistiques. On se dirigera ensuite vers une soirée avec deux DJ sets et un live instrumental pour se laisser bercer et emporter par l'univers jazz, soul et house des artistes programmés aux ateliers Bakélite. Retrouvez la programmation détaillée de cet événement global et solide sur bklt.fr. Les ateliers Bakélite, le 8 juin, aux ateliers du Théâtre Garonne, rive gauche, métro Saint-Cyprien.
Ok, mais il est pas parti en fait. Il... Bah si, mais j'ai pas eu de son, donc voilà, donc vous écoutez FMR. Ah bah super, super, ça c'est agréable. Bon, bah il veut pas, bon, bah... Il... Si, d'accord, ok.
J'ai plus de micro aussi, ça y est.
Ok, donc voilà, c'est le problème de jongler entre plusieurs PC pour les bandes annonces. Et en plus, il y avait trois festivals qui ont lieu en même temps, ce soir, dont Atelier Bakélite hier, qui faisait l'objet du 17-19 et qui était super intéressant. Une précision à propos de la bande dessinée, donc Moonlight, que tu as oublié d'annoncer. Donc c'est en Creative Commons.
Oui, c'est, voilà. C'est Full Moon, non, c'est Full Moon.
Full Moon, pardon.
Full Moon est en Creative Commons.
Oh, Moonlight, Full Moon.
Bon, qu'est-ce que tu as d'autre?
Ah, on voit sur le deuxième.
Ah bah oui.
Ok.
Le flux continue.
Le flux continue. Alors là, par contre, je traverse l'Atlantique, direction l'État d'Ohio, la capitale Columbus. Je vais parler d'une web BD qui s'auto-édite. Il s'appelle Spinrette, scénariste Crazy Crow, artiste, dessinateur Walter Gomez. Alors, est-ce que tout le monde connaît Spider-Man, au moins?
Ah non, moi je ne connais pas du tout.
Bon, on connaît le coup de l'araignée qui a mordu Peter Parker. Là, Spinrette, c'est dans le même style, mais c'est pas du tout... on va dire que c'est une histoire toujours d'araignée, mais ce n'est pas du tout le même style. Il se trouve que Ever Brown, qui est une assistante dans un laboratoire d'expérience, dans un laboratoire de Columbus, et elle travaille autour des araignées.
Non.
Oui.
suite à une gaffe, mais elle est une gaffeuse de son nom, suite à une gaffe qu'elle a faite au laboratoire, le laboratoire explose. Et elle se retrouve avec 6 bras.
Ah ouais, c'est pas pareil. Ça c'est plutôt Octopus.
Ouais, ça ressemble plus un peu sur ce côté-là, un peu sur Octopus, mais non, là c'est même pas des bras de mécanique, là c'est des vrais bras. Donc du coup, un peu fan de super-héros quand même, elle décide de se lancer toute seule dans l'aventure d'une super-héroïne.
Et on va se bricoler une petite tenue.
Voilà.
D'accord.
On va se bricoler. Enfin, non, on va plutôt laisser la colocatrice s'en charger.
Ouais, c'est bien les colocatrices.
C'est bien les colocatrices, elles font les tenues vite fait. Autant pour être la super-héroïne que pour essayer de masquer ses 4 bras supplémentaires.
Eh oui,
c'est quand même un peu problématique.
C'est vrai qu'on n'y avait pas pensé au premier abord.
Elle cherche bien entendu un nom de super-héroïne. Bon, autant dire que Spider-Woman, c'est déjà pris, autour de trucs. Et donc du coup, elle choisit Spinneret. Le problème, c'est que Spinneret, c'est déjà pris par une super méchante. Et il se trouve qu'elle la croise. Et s'ensuit une bagarre où, à cette occasion, elle rencontre en fait le groupe de super-héros local qui est composé de Tiger, un bon noir musclé, on va dire qu'il faut pas déconner, et Mecha Maid, une fille qui a qui est cybernétique, enfin en partie cybernétique et qui peut envoyer quand ça veut la sauce. Et donc du fait de la première rencontre avec Evil Spinneret. Evil Spinneret, qu'elle aide en fait, elle intègre le groupe de super-héros local. Le seul truc, c'est qu'elle apprend sur le tas, donc entre gaffe et pouvoir, elle a encore du mal à bien maîtriser son rôle de super-héroïne. Elle va dans certains cas, le groupe doit affronter de super méchants dans les plus fameuses là-bas sont Docteur Universe et son assistante Greta Gravity. Et en fait, de temps en temps, le groupe a besoin d'aide et ils font appel à leurs voisins de la Ligue des super-héros canadiens et qui s'annoncent comme ça en plus en anglais et en français, ce qui est assez original quand on a l'habitude des aventures on va dire d'outre-Atlantique où ça parle français. Oula. Donc cette aventure, elle va apprendre sur le tas le rôle de super-héroïne, maîtriser ses pouvoirs, mais il faut dire que elle a pas réellement les pouvoirs de Spider-Man. Enfin, elle a quand même
elle a juste des bras quoi.
Elle a des bras, elle peut s'accrocher comme une araignée. Par contre, pour envoyer
les toiles,
ce n'est pas au niveau des mains, c'est comme toutes les araignées, c'est-à-dire que c'est au niveau des fesses. On voit, en fait,
Donc il faut qu'il y ait un trou dans la tenue, alors, pour que les...
Tout à fait.
Oh putain, d'accord.
Des détails comme ça qui apparaissent, okay. Qu'autant sa colocatrice...
C'est bien vu.
C'est du
fanservice, on voit gros comme maison, le fanservice, ok.
Et même pas, tu vois, tu t'aurais dit du fanservice, et ben même pas. Mais c'est une héroïne qui apprend sur le tas, si je puis dire. Et en fait, au fur et à mesure des aventures, elle apprend petit à petit à maîtriser tous ses pouvoirs, toutes ses caractéristiques d'araignée. Mais de vraie araignée, pas d'araignée mutante ou autre qu'on pourrait avoir avec Spider-Man.
Oui, c'est plus un croisement avec la mouche de Cronenberg et l'univers des super-héros. Quoi.
Voilà, c'est
sauf
à peu près...
Il n'y a pas le côté dégénérescent.
Tout à fait, de la mouche. Alors, Spinneret, elle fait partie, enfin l'univers Spinneret fait partie en fait de la nouvelle génération des webcomics aux États-Unis. On a, elle fait partie d'un groupement qui est l'aventure Hiveworks. On retrouve, c'est un véritable incubateur de webcomics. On y retrouve entre autres Blaster Matten, Miss Files, Namesake, Ménage à Trois, Eric Lutis, Ensorcelante Créature. Normalement, là, avec juste ces quelques noms, j'ai dû faire tiquer au moins un panda roux du côté de Paris. Super Normal Step. Là, on est vraiment dans une nouvelle génération de comics américains et autoproduits.
Alors ça, ce qui est très rigolo, c'est que on est totalement dans les codes
du comics, oui.
Mais avec un traitement manga.
Oui.
Alors les tenues, c'est du comics, mais pur jus, mais très. En plus, là pour le coup, c'est presque un rendu semi-pro. Là, c'est vraiment totalement assumé. Par contre, les gags, les onomatopées, les façons de réagir, les voilà, c'est du manga.
C'est du manga, voilà.
Ouais.
Alors, il faut savoir une chose, c'est que le tome 1 et le tome 2 est édité chez Indie Planet, qui est un vendeur d'œuvres autoproduites aux États-Unis. Et là, récemment, Crazy Crow a lancé un Kickstarter, un système de crowdfunding, où il a voulu en fait faire participer les sélecteurs à une édition plus en fait il voulait améliorer un peu le format, parce que normalement il annonce ça, c'est Greta Gravity. Thomas vient de flasher sur Greta.
Ah non mais ouais non mais ce fan service partout ouais. D'accord. Ouais, continue.
Donc avec le système Kickstarter, en fait, il a voulu améliorer la pagination, améliorer les choses comme ça. Donc du coup, il avait lancé un petit Kickstarter de 20 000 $. Ça s'est arrêté il y a quelques jours, ça a atteint 80 000
ouais, okay.
dollars. Donc
ouais,
du
ouais,
coup,
tous ouais. les trucs un petit peu passionnés, voilà, un petit peu passionnés, marche très très bien, puisque je crois que donc, ils en sont à plus de 1200% de levée de fonds pour Noob ouais. et tout ça. Donc ça marche très très bien. Par contre, ces trucs classiques qu'on voit partout dans les médias. Ah, ça ne marche pas.
Bah, il se trouve qu'en plus dans chacun des tomes, il y a une aventure bonus qui n'a pas été publiée sur le web et qui concerne la colocatrice qui se découvre avoir des pouvoirs également.
Ah bah tiens.
elle découvre son pouvoir. Et là en fait, avec le Kickstarter, ça a tellement bien marché qu'il va rééditer les tomes 1 et tome 2 que j'ai amené dans la nouvelle version qui est beaucoup plus 27% plus grande, il annonce. Et en plus, il va rajouter un deuxième aventure bonus qui va concerner un peu la vie de tous les jours de Spinrette et de sa colocatrice. Alors moi, c'est vrai que je l'ai suivi comme ça, c'est en chinant un peu dans les webcomics, que ça soit français ou que ça soit américain. Là, en l'occurrence, c'est américain, voire un peu canadien sur certains bords. Vraiment, si tu veux, j'ai accroché parce que c'est certes Spider-Man, mais en même temps, t'as, comme tu l'as dit, cette petite touche manga, cette petite touche, ça rafraîchit un peu ce qu'on voit d'habitude chez DC, chez Marvel, chez choses comme ça. D'ailleurs, t'as des petits messages à travers pour Marvel, en provenance de Marvel et autres, le truc qui est marrant, c'est que ces petits passages-là, c'est en fait lorsqu'il a fait la publication de son personnage sur le web, la première réaction des lecteurs, ça a été: vous allez vous faire tailler en pièces par Marvel parce que vous copiez Spider-Woman. Et qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a dit je vais l'utiliser, quoi. Vraiment, Crazy Crow a vraiment une relation entre lui et son lectorat, ce qui fait qu'il adapte au fur et à mesure l'histoire, mais en piochant.
En tout cas, c'est vrai qu'on voit que c'est une BD qui nous parle. C'est en anglais, mais j'ai bien vu qu'il y avait des gags qui je pense que c'est assez rigolo à suivre. Alors là, pour l'instant, c'est pas sorti en français, donc c'est uniquement en anglais.
Non, pour l'instant, c'est auto-publié.
Et donc là, du coup, tu l'as commandé, tu l'as reçu.
Oui. Alors, d'accord. Ça met un peu de temps parce que ça vient des US, mais franchement, ça vaut le coup de patienter, ça vaut le coup de lire Spinrette. Franchement.
D'accord.
Certes, ça va pas plaire à les fans de Spider-Man, mais ça.
Ouais, je pense qu'il faut que ça plaise. C'est pas.
Ça fait un peu. On va dire, c'est d'être super-héroïne sur le tas. Ouais. Ça me fait penser un peu à Kickass qui a.
Mais ouais.
Voilà,
mais
un peu à Kickass.
Les vieux fans de comics de l'âge d'or du Silver Age, c'est sûr que Kickass, je suis pas persuadé qu'ils vont forcément aimer. Mais je pense que c'est vraiment, comme tu le dis, c'est ce nouveau public en fait qui vient aux comics par le carrefour des médias. Et là, franchement, on est au carrefour aussi du manga, parce que forcément, on sait très bien que les fans de comics détestaient manga, vice versa.
Ça les réunit un peu parce qu'on a tous les codes du comic, on a également des codes du manga. Et c'est
ce qui avait déjà été fait pour. J'ai oublié le nom de ce dessinateur qui avait repris Dirty Angels.
Enfin, c'est quelque chose qui existe depuis assez longtemps. On va en parler tout à l'heure avec un animateur, d'ailleurs, qui justement a approprié les codes du manga pour les adapter à l'univers du comics et de l'animation américaine. Donc, ça fait depuis un bail, hein, quand même, de toute façon, que ça circule.
Ouais, mais là, c'est vraiment marqué.
Ça parle parce que ce sont, par exemple, des... Par exemple, quand tu dis que justement la toile sort par le derrière, ça c'est forcément c'est des remarques qu'on s'est tous dit. Tu sais, quand tu vois des grosses franchises depuis 70 ans, tu dis mais il y a personne qui s'est demandé comment ils faisaient pour aller aux toilettes par exemple, tu vois. Et puis là, j'ai l'impression que c'est vraiment une type de BD qui répond à ce genre de questions à la con, tu vois. C'est ou que n'importe qui fan, parce que tu vois que c'est fait par des fans, et puis c'est fait par des fans pour des fans. Donc c'est vrai que c'est un humour là-dedans que tu trouves pas dans les franchises officielles.
Voilà, donc c'est vrai que ça permet, c'est vrai, de...
Oui.
De construire.
Alors après, t'as deux façons d'aborder ça. Soit tu te dis bon, c'est mal dessiné, c'est un humour de potache, laissez le comics aux pros. Ou alors tu prends ça pour ce que c'est, c'est-à-dire un nouvel éclairage frais. Alors après, voilà. Et puis tu te dis tiens, c'est moi ce type de gars que j'aurais pu très bien les imaginer. Et puis ça te fait rire.
Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est le genre d'œuvre comme ça. Ça apporte vraiment une fraîcheur sur l'univers comics qu'on trouve.
C'est un peu le
j'ai un peu retrouvé le nom d'ailleurs de ce que je cherchais, c'est Adam Warren, et qui lui justement aussi jouait sur les trucs qui étaient franchement limites, et sur les héroïnes qui étaient super bien galbées dans tout le sens, mais des fois il allait aussi un petit peu trash, voire même très largement.
Après, par exemple, tu vois, moi je suis fan de j'étais fan de Saint Seiya quand j'étais petit, et puis quand il y a les Chevaliers de l'Horoscope qui sont sortis, je me suis pas dit tiens, c'est quoi ces trucs de merde. Ben voilà, non, c'est tu peux apprécier autant la référence que la parodie.
Non. Ah,
bref, les références de Spinnerette, je viens de rechercher sur le catalogue donc Diamond Comics. Il n'est pas annoncé pour l'instant, donc je pense que on ne peut le commander que par internet.
Sur Indie Planet et sur le site de Spinnerette, spinverse.com.
D'accord.
Donc Spinnerette, scénariste Crazy Crow, artiste Walter Gomez. Il y a juste une exception dans le tome 2 où Walter Gomez ne pouvait pas faire l'événement, et c'est Fernando Enns qui a pris le relais.
9h49 sur la poubelle de radio 89.1 MHz. Vous écoutez le Supplément Week-end. Tarantula.
Ah oui.
Bravo.
Désolé, Parpaing de l'homme.
Serial killer, for the funeral and I'll jingle to make up. When you were living with your son next to me,
Il y en a qui me font des blagues sur Archie, bon. Pas du, forcément du meilleur goût. Et d'un autre côté, donc une annonce urgente. Si quelqu'un peut dire, peut annoncer à quelle heure se termine la pluie, ce serait sympa. C'est vrai que là, il pleut à verse depuis le début de l'émission. Alors, pile poil au début. Je sais pas, c'est ton retour.
T'as un chat dans la gorge, racle la gorge avant de continuer.
Tiens. Il va me le filer à porte.
Ah, c'est bon, voilà. Il est sorti. Enfin.
On peut y aller, merci. Ultimatum, ma foi.
Allez.
De l'animation.
Et oui, de l'animation avec un film. Vous allez me dire, il a pété un câble, Thomas. C'est un film 3D qui est sorti en février dernier. Et pourquoi t'en parles? Mais tout simplement parce que déjà, j'avais vu le film, je l'avais pas chroniqué, donc ça fait une chronique à ressortir le moment voulu. Et puis surtout que le film sort en DVD la semaine prochaine. Ah ah! Et qui c'est le plus fort ici? Alors. Alors, Hôtel Transylvanie. On avait je me demande si on n'avait pas parlé un petit peu avec du sport au détour d'une conversation, mais je crois que c'était en off. Alors je sais plus, tu sais, comme c'était pas recensé sur le site de l'émission, je me suis dit. Alors, Dracula préserve sa fille unique, Mavis, des dangers du monde extérieur. Parce que la petite, bah, elle est curieuse de voir le monde extérieur, mais elle est un peu prisonnière dans le manoir. Il y a peut-être une raison, c'est parce que sa mère, donc la femme défunte de Dracula, comme ils étaient un peu pourchassés par les humains, bah, en fait, elle est morte suite à un incendie de sa maison. Pour fêter, malgré tout, ses 118 printemps à la petite, mmh. Son père invite tous ses amis freaks. La famille de loup-garou, Frankenstein et sa femme, le blob, l'homme invisible, la momie et plein d'autres encore. Ça fait du joyeux bordel dans ce putain de château. Bel effort, sauf que la machine se grippe. Qu'est-ce qui pouvait se passer? Eh ben, justement, un petit aventurier, fan du guide du routard, qui passait par là, il a vu la porte ouverte et il est rentré. C'est un humain, il s'appelle Jonathan. C'est un jeune, il n'a pas encore connu l'histoire d'amour, ce qui devait se passer se passa. Il va y avoir des liens qui vont se tisser entre Mavis et Jonathan. Dracula s'apercevant du poteau rose juste avant qu'elle rencontre ce mystérieux jeune homme, il voit que c'est un humain, il dit ah non, il faut pas d'humain. Donc il le déguise en monstre. Donc pendant tout le film, il va devoir se faire passer pour un monstre. Parce que sinon, Dracula, il a un peu menacé, il lui a dit attention, je risque de m'énerver. Sauf que Jonathan, il sait pas que les vrais monstres existent. Donc il voit ce papy qui se balade en cap et il se dit ouais, ça va, t'es gentil, mais bon, moi je suis un aventurier, j'ai peur de rien. Et puis il met vachement de temps dans le film à comprendre que c'est des vrais monstres et qu'il peut vraiment dérouiller sa mère en fait. Donc ça, c'est des décalages assez rigolo. Ah oui, en plus il y a un côté un peu monstre et compagnie avec les rapports monstres-humains qui sont inversés, parce que là forcément les monstres ils viennent dans ce château pour se protéger du monde extérieur, et puis dès qu'il y a un humain, c'est comme Boo dans Monstre et compagnie, ils ont peur quoi. Voilà. C'est un film d'animation qui est produit par les studios Sony Pictures d'animation, réalisé par Jendy Tartakovsky. Alors que c'est un gars qui est super connu dans le monde de l'animation, mais bizarrement c'est son premier long métrage seulement.
Dieu.
Oui, parce que c'est son premier long d'animation.
Punaise.
Oui, oui.
Dexter.
C'est le laboratoire de Dexter. C'est Samurai Jack.
Oui.
Samurai Jack. Je croyais que ça avait été adapté au cinéma. Donc non, même pas.
Et Jendy Tartakovsky, c'est aussi le gars qui a pondu ce chef-d'œuvre, qui la série d'animation Clone Wars, que l'immonde George Lucas a essayé de faire passer en catimini, à dire non non, ça n'existe pas. Regardez plutôt Clone Wars, beaucoup plus pour les gamins de 6 ans, avec de la 3D en cel shading, avec des Jabba the Hutt qui perd son bébé. C'est beaucoup mieux ma Clone Wars à moi. Non non, Tarkovsky il a fait un Clone Wars, bon c'est bien, mais non non, c'est pas du Lucas.
Voilà, une leçon d'animation. Regardez la série Clone Wars de Tartakovsky, vous allez... voilà, c'est à montrer dans les écoles d'animation. Alors, production agitée pour ce long-métrage Hôtel Transylvanie. Tartakovsky a intégré l'équipe au dernier moment. Pas moins de 5 réalisateurs s'étaient cassés les dents avant lui, puisque c'est un projet justement qui a été développé suite à beaucoup de rebondissements. Ils n'ont pas réussi à se fixer sur le scénario, qui serait le personnage principal. Il faut savoir aussi que c'est produit par Adam Sandler, dont il fait la voix de Dracula. Donc quand un producteur, auteur et celui qui donne la voix du personnage principal a les pleins pouvoirs, enfin beaucoup de pouvoir, bon là forcément c'est pas le réalisateur, c'est plutôt le réalisateur qui trinque, c'est pas lui qui a le dernier mot. Donc Gianni Tartakovsky, pourquoi il est venu? C'est parce qu'il avait un autre projet de long métrage qui s'est cassé la figure à côté. Il s'est dit, si je veux quand même à un moment donné faire du long métrage, il faut à un moment donné que j'accepte des projets clés en main et que je montre un peu de quoi je suis capable. Donc il est arrivé, c'était un choix politique. La seule marge de liberté qu'il a eue, c'est qu'il a redessiné entièrement Dracula. Si vous regardez la patte de Tartakovsky, c'est vraiment un style très géométrique, très basé sur du Tex Avery, voilà, pas de fioritures. Et là on voit que Dracula, c'est quoi? C'est un triangle inversé avec un ovale. Voilà.
Classique avec lui, c'est vraiment
Et c'est vraiment excellent parce que
il est allé vers l'animation minimaliste, mais justement sans les travers de l'animation minimaliste qui était le réusage à fond des cellulos et tout ça, l'écriture de script qui était fait justement pour réutiliser les cellulos. C'était le gros scandale de la Warner Bros dans les années 50-60, et malgré tout il a réussi à s'imposer à la Warner avec un style complètement différent, avec des histoires qui étaient vraiment originales et des œuvres qui étaient vraiment adultes pour des chaînes pour enfants, mais du coup justement avec des fois des références graphiques extrêmement fortes, pas visibles forcément du premier coup, mais on a du Merlot, tout ça, c'est un monde, ce type pour moi c'est un dieu.
Alors justement la patte de Tartakovsky, bien que le film soit de la 3D pour les enfants, on voit quand même qu'il a mis une patte. Je vous invite à aller voir l'interview qu'il a accordée à l'excellent site spécialisé sur le cinéma qui s'appelle capturemag.net, qui a été lancé par les anciens de Mad Movies. Et donc là, il revient sur la genèse du film, la genèse à son niveau à lui, parce qu'il y avait eu pas mal de collaborateurs qui avaient travaillé dessus avant. Mais il disait que lui, il avait imposé en termes de découpage au niveau du storyboard, justement, un refus systématique du champ contre champ. Donc, le champ contre champ, c'est quoi? C'est un personnage qui parle, légèrement de trois quarts face. En amorce, on voit le dos de son interlocuteur, puis ensuite, la caméra passe en train de filmer un cut et filme l'interlocuteur. Lui, en fait, il trouve que ce système-là, c'est rythmé, ça fait des points de montage. Par contre, on n'a pas les gags et le liant entre le personnage qui provoque quelque chose et le personnage qui réagit. Donc ce qui fait que lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a filmé ses personnages, les deux où on pouvait voir leurs expressions. Il y en a un qui balance un truc et l'autre réagit. Ce qui fait qu'on a des plans séquences de discussion où le rythme vient de l'animation et pas des points de montage. Donc du coup on revient à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on revient vers du Tex Avery, on revient vers un refus du cut. Et justement, ça densifie, ça remet l'accent sur les vrais mouvements de caméra qu'il y a dans le film. Et donc, du coup, comme ils sont beaucoup plus rares et que les montages sont plus rares aussi, ça fait un effet d'autant plus marquant. Moment de bravoure du film, l'arrivée massive des monstres au début. J'imagine que ça a dû être un cauchemar à mettre en scène, mais c'est génial. C'est-à-dire que Dracula prend son pied, il voit tous ses amis qui arrivent en même temps. Alors, il y a l'homme invisible, il est tout seul, le Frankenstein, il vient avec sa femme. Mais quand tu vois Loup-Garou, dont la voix originale est faite par Steve Buscemi, il vient avec sa femme. Il vient avec sa femme et leur 50 louveteaux.
Alors là, c'est un
immense bordel parce que du coup, les morts, ils se connaissent tous. Alors, ils disent, hey, comment ça va, tonton Francky? Refais-nous le coup de ta tête. Alors, voilà, il enlève la tête, il la remet. Il y a aussi le blob. Alors, le blob, tout le monde s'en sert pour faire des trampolines. C'est un bordel monstrueux. En plus, comme j'ai dit, avec les 50 louveteaux, bon, tu vois que c'est des monstres, mais ils ont des préoccupations humaines. Donc, tu vois que le gars, c'est un papy avec sa femme, et puis il
viennent juste pour voir de la tranquillité, d'autres qui viennent pour autre chose. Il y a ceux qui ont qui doivent subir des psychanalyses parce qu'ils s'en rendent pas bien, d'autres qui sont plutôt des bourrins et d'autres qui viennent sympa la nouvelle déco de ton château. Oui je trouve aussi. Voilà. Donc c'est vraiment des considérations humaines. Et alors tu prends ton pied parce que enfin, je vais continuer dans ma guerre anti-Burton. Enfin, tu as un film sur les frics, sur les monstres, où tu n'as pas cette putain de bande-son de Danny Elfman avec les des couleurs flashy de partout et cette espèce d'imagerie gothique que tu vois dans tous les films de Burton. Là, tu vois un film sur les frics qui est un design un peu plus original avec un Dracula qui est là pour faire rigoler, où on te dit pas le macabre c'est bien, les humains c'est pas bien, non, la morale c'est pas du tout ça, c'est juste le lien entre le père et sa fille, où le père pour le bien de sa fille essaie de la préserver au maximum, et la fille elle en peut plus de ce père, qui pendant 118 ans essaie de la cantonner à son château, et voilà. Il y a un gag au début du film qui est très révélateur, c'est que il lui dit, bon ma fille tu as 118 ans, c'est bon tu peux aller au village à côté. Mais non, papa, t'es sûr ? Bah ouais, c'est vrai. Vas-y, tu peux y aller. Alors, bon, spectateur, t'es là, c'est quoi l'embrouille ? Alors, elle y va, et puis tu trouves que la tranche des villageois, ils sont bizarres. En fait, c'est juste qu'il a le contrôle des morts, et puis qu'en fait, il en a fait des zombies pour faire croire à la nana que c'est... Oui, tu vois, t'as les villageois, allez, rentre maintenant.
Pas mal.
Voilà, bien fait. Donc, pas mal de gags comme ça. Alors, ça suit un peu la gymnastique scénaristique des films qui sont un peu pour enfants. C'est-à-dire que t'as un immense bordel organisé au début pour te faire saliver. Tu te dis, ouais, sa fille a du rythme et tout. Après, t'as un long creux romancé avec les histoires d'amour, un côté un peu plus classique. Et puis à la fin, un feu d'artifice avec la conclusion des intrigues, des sous-intrigues, etc. Donc c'est un film... tu y vas... Si on a des gamins, on y va avec. Voilà. Si tu y vas et que t'aimes bien les revisitations de monstres, tu y vas aussi. Parce que ces monstres, à un moment donné, il va bien falloir qu'ils quittent le château pour aller. Il y a des aventures à faire après. Et puis là, tu vois la confrontation avec le vrai monde, c'est atomique. Juste une petite anecdote au passage, c'est que Dracula, il se rend compte de la façon. Parce que. C'est aussi le monde dans lequel on vit, donc les monstres ils sont connus, oui. Et donc il s'aperçoit quelle image j'ai parmi les humains, voilà. Et donc les humains s'imaginent que Dracula il arrête pas de dire bla bla bla, donc il se rend compte que pour les humains il ne dit que ça. Donc à un moment donné, que fait Dracula pour passer inaperçu? Il s'est passé pour un comédien, donc il s'est passé pour un comédien en train de pasticher Dracula. Voilà, imaginez le voilà. Oui. Donc voilà, l'humour du film. Hôtel Transylvanie, sorti en DVD samedi prochain.
J'ai une question, pourquoi hôtel? Parce que normalement...
Parce qu'en fait c'est...
C'est un jeu de mots avec Hôtel Transylvanie.
Je pensais Hôtel California aussi.
Mmh. Oui, parce qu'en VO c'est Hôtel Transylvania, mais ouais. C'est vrai que son château, en fait, pendant toute l'année, bah, il vit tout seul avec son majordome et avec sa fille. Mais là, c'est vrai que ça se transforme en hôtel parce que
oui,
comme il y a plein de chambres.
Entre les différents monstres, la cinquantaine de louveteaux, plus monsieur et madame Frankenstein.
Il y a aussi
et...
des problèmes de cohabitation. Il y a Dracula, oui, parce qu'il y a aussi Dracula qui veut organiser les festivités pour l'anniversaire de sa fille, et puis il est complètement à la masse. Et donc, c'est justement le petit humain qui veut dire. T'inquiète, je gère. Et puis il va transformer ce que Dracula pensait que c'était des festivités joyeuses et aimées de tout le monde. Et en fait, ça va être le gros bordel, mais tout le monde va adorer, va kiffer ce qu'a fait le petit humain. Voilà. Donc je rappelle la référence, Hôtel Transylvanie, sorti en DVD samedi prochain des studios Sony Pictures Animation, réalisé par Jendy Tartakovsky, avec les voix en VO d'Adam Sandler et Steve Buscemi. Et la jeune fille est incarnée en VF par Virginie Efira.
Ah, bon, d'accord. Ok.
Je vous laisse mes.
Mais personnellement, bon, ça commence à me hérisser de voir qu'on prend des comédiens ou des gens connus qui ne sont pas des comédiens de doublage, ce qui est un métier très différent de faire l'andouille devant une caméra.
Ben, c'est bien pour la promo. Parce que.
Ouais, ça m'inquiète.
Parce que comme ça, t'as les images de l'enregistrement des voix. Dit, hé, regardez, vous allez passer aux enfants de la télé après. Voilà.
Ouais. Vous écoutez Radio FMR, il est 13h08 sur la poubelle des radios, c'est le supplément week-end et on enchaîne avec ma foi de la télévision.
Là, ça fait longtemps qu'on l'ait pas entendu.
Bah, il me l'a demandé.
Il est demandé.
Ouais, il est vraiment spécial.
Tu vas essayer de lire à travers les bugs d'impression. Ah, mais tu l'as aussi sur ton. D'accord.
On commence à devenir une émission paperless.
On est une émission connectée.
C'est celui qui imprime à chaque fois le conducteur.
Ouais, c'est toi qui déforeste. Ouais.
Bon,
on va. Donc, tu m'as demandé de faire la sélection TV. Normalement, le samedi, c'est le docteur sur France 4.
Non, moi, je suis plus sur NT1.
Oh. Mais là, ce qui est dommage, c'est que cette semaine, il y est pas.
Bon, bah, tant pis.
À la place. C'est du rugby. Ah, c'est dommage.
Mais à quelle heure?
À 20h40.
20h40 du rugby ce soir?
Ouais. C'est France, cool. France, États-Unis pour les moins de 20 ans, Coupe du Monde. Et donc du coup, c'est France 4 qui diffuse. Donc du coup,
Docteur plus de budget.
Docteur
ils
Roux.
Ont pris ce qui était moins cher.
France, États-Unis.
Oui, il se trouve que actuellement, tu as la Coupe du Monde en France, la Coupe du Monde de rugby pour des moins de 20 ans en France. Donc du coup, c'est France 4 qui diffuse.
Ok. D'accord.
Bon, ceci dit, aux États-Unis, ils ont des gamins un petit peu, ils savent ce que c'est que le football américain, et on a peut-être une chance de ne pas gagner.
Trompe-toi, les États-Unis sont pas mauvais en rugby.
Oui, bon, oui, justement, on n'a pas de chance.
Déjà qu'on s'est pris le toll avec l'Angleterre. Allez, donc du coup, pas de Doctor Who, faut aller voir ailleurs. Donc du coup, je suis allé voir du côté de Canal Plus, cinéma, où il y a le dernier Woody Allen, To Rome with Love, avec. Woody Allen, Roberto Benigni, Penelope Cruz. Oh. Je vais pas faire le type triptyque. C'est comme d'habitude, c'est du Woody Allen, mais à Rome.
D'accord. Bon, je vais pas à Londres, à Paris, à Rome, voilà. Tombouctou, en Pékin. Bon.
Alors par contre, pour ceux qui sont un peu dans l'animation, je leur conseillerais plutôt Canal Plus Family. Il se trouve qu'il y a un dessin animé, enfin un film d'animation, Le Géant de Fer.
Ah oui.
Ça, si vous avez l'occasion de le voir, c'est le moment. Pour ceux qui veulent plutôt on fait des biopics, enfin là on a eu quelques trucs un peu de biopics. Il se trouve qu'il y a un ou deux ans, il y a eu Création. Qui parle de un film sur Charles Darwin, sur comment il est allé sur l'île des Galapagos où il a inventé la théorie de l'évolution. Et il se trouve que c'est Orange Cinémax diffuse ce film qui est justement dédié à tout ce qui est comment Darwin a mis en place ses théorèmes. C'est un peu romancé, mais au moins on a la trame principale, on a l'histoire principale qui est sur des faits réels. Mmh. Donc du coup on a ce truc là.
Et c'est un docu-fiction ou c'est
non, c'est un téléfilm, c'est sur comment Darwin a développé sa théorie.
De l'interprète qui joue Darwin ou
Je me suis manqué, je suis pas du sport.
D'accord.
C'est ma première. Alors sinon, si on veut vraiment se détendre, y a-t-il un flic pour sauver le président sur RTL9? Ça permet de se détendre.
Classique, du bon.
Un truc bien. Pour ceux qui ont. Ah bah, c'est quand déjà? C'est la semaine prochaine la Star Trek? Ouais. Bah, ouais. Pour ceux qui veulent un peu se souvenir ou découvrir, il y a Cinéfix qui propose Star Trek Voyager, la série. Ils font tout le truc et c'est dès ce soir à 21h, on a 4 épisodes d'affilée. Pour ceux qui veulent se remémorer.
Je le dis
en avant-première, ça permettra d'avoir des débats animés la semaine prochaine. Je n'aime pas Star Trek. Donc je vous le dis.
C'était prévu, c'était étudié.
Voilà.
Bon, dimanche, pour ceux qui veulent pas du foot ni de la Formule 1 au Canada, il y a sur OCS Max Batman le défi de Tim Burton, le deuxième. Ouais. En fait, en ce moment, OCS Max fait tous les Batman. Enfin, OCS en général, parce qu'en fait...
Oh merde, ils font tous les Batman.
Oui.
Oh,
oui.
Putain.
Oui, oui. Ouais, tu devines qui est le prochain.
Ouais, ben je vois, ouais.
Mais en fait, ils vont faire les deux trilogies. Les deux trilogies de Batman. Et en plus, ils repassent les dessins animés sur OCS.
Les deux trilogies?
Oui, celui de...
Non, il y a eu deux diptyques plus une trilogie. Nolan est le seul qui en a fait trois, en fait.
Ah oui, pardon. Attends.
Burton en a fait deux. Schumacher en a fait deux. Et Nolan en a fait trois.
J'arrive pas à compter Batman et Robin, j'y arrive
Bref.
Pas.
Bref, vous avez compris qu'il est vraiment en train de stresser depuis tout à l'heure, ouais. Ça s'entend à la voix qu'il n'en peut plus.
Non, mais c'est vrai que t'as raison, Batman et Robin n'existent pas.
Donc Batman le défi de Tim Burton avec Michael Keaton, Michelle Pfeiffer dans le rôle de Catwoman, Danny DeVito dans celui du Pingouin sur OCS Max à 20h40. Sinon, il y a Usual Suspect sur Ciné Plus Club. Celui-là c'est une référence.
On ne dira pas que Kaiser Soze c'est en fait. Non, il n'a pas réagi. Bon, c'est pas grave. Je pouvais spoiler allègrement, mais bon. Je suspecte celui qui se fait spoiler aujourd'hui. Désolé. Hein.
Bon, sinon, y a, sur France 2, il y a un petit film français pour ceux qui veulent un peu se détendre, c'est Hors la loi. Avec,
Oui, Hors la loi. Ouais, c'est la pseudo-suite d'Indigène.
Ouais.
On ne spoilera pas.
Bon, pour l'instant, tu fais ce que tu veux, mais ça manque un peu de Steven Seagal, je dis. Mais bon.
Ah, je vais te contenter, mais c'est pas Steven Seagal. C'est pas Steven Seagal. Sur Ciné Plus Tard, il y a Force One avec
Chuck Norris.
Oui, avec Chuck Norris. Si tu veux revoir Chuck Norris à
jeune.
Voilà, jeune et en train de faire la tatane, c'est bon, tu peux y aller. C'est sur Ciné Plus Tard. Sur Canal Plus Families, il y a un grand classique de l'esprit canal, La Cité de la Peur, avec les nuls.
Oui, bah forcément.
Bon, ça dépend des avis, certains bien, d'autres.
Je connais des gens qui l'ont jamais vu, hein, donc.
Bon, du sport, on avait parlé la semaine dernière. Pour ceux qui aiment bien les œuvres entre guillemets, les adaptations d'Agatha Christie,
oui.
Hercule Poirot, Miss Marple, qui sont diffusées sur TMC, France 3 diffuse une série qui s'appelle Miss Fisher Enquête, et ça a vraiment le même rythme, mais c'est fait par des Australiens. C'est vraiment pour ceux qui aiment bien ce genre d'aventure. Un peu lent, mais autre. Mais c'est vrai que là-dessus, ils ont France 3 a fait une bonne acquisition pour son public. C'est vraiment une série de secours, si je puis dire, si je puis dire pour dimanche. Lundi, il y a France 2 qui continue The Closer, TF1 qui relance les Experts Miami, mais il faut dire que c'est la dernière saison.
Ah ouais!
Enfin, youpi, plus de Caruso!
Ah non, il y a il y aura les rediffs après.
Déjà que le dimanche pam, après-midi. Pam. Déjà qu'il me font chier le dimanche après-midi.
Pam, pam, pam. Voilà.
Alors, sinon, si on n'est pas série, il y a la série, si on n'est pas ce genre de série, il y a Canal Plus qui diffuse les premiers épisodes de la série Viking sur l'histoire justement des Nordiques. C'est fait par des Italiens et des Canadiens. De ce que j'en ai un peu vu sur les annonces de Canal ou même sur la diffusion canadienne, ça s'appelle Ici ou enfin c'est Radio Canada là-haut. C'est assez intéressant parce que ça raconte l'histoire en fait des Vikings, comment ils ont envahi l'Europe et surtout pourquoi. Parce qu'en fait c'est l'histoire d'un camp viking. Qui passe toute son toute sa journée entre guillemets dans l'univers scandinave et il décide de lancer l'aventure on va dire et de vraiment aller à la prendre la mer et d'aller trouver des trésors j'ai envie de dire ça accroche un peu dans le Game of Thrones mais en même temps ça permet d'avoir un petit truc historique sur comment les Vikings fonctionnaient.
D'accord. Et donc tu dis c'est où, c'est quand?
C'est Canal Plus à 20h50, c'est lundi.
Putain, on n'a pas Canal.
Arte nous lance une série Hitchcock. Et on commence par L'homme qui en savait trop. Donc là, par contre, c'est du classique.
De toute façon, il y a tellement du Hitchcock qu'ils peuvent commencer un cycle Hitchcock et le finir. Et en fait, ça en est déjà à l'année d'après, quoi.
Oui, tout à fait. Sur W9, alors un film que moi j'ai apprécié, c'est Lord of War.
Oui, moi voilà. j'ai kiffé grave. Aussi. J'ai adoré.
C'est une première diffusion sur la TNT, donc autant en profiter pour ceux qui l'auraient loupé au cinéma ou sur les bouquets. Teva, alors là c'est un truc, c'est assez bizarre quand j'ai vu la programmation. Teva qui propose à partir de 20h50, y a-t-il un pilote dans l'avion, suivi de y a-t-il enfin un pilote dans l'avion. Je sais pas ce qu'ils ont là, la programmation chez Teva. C'est pas dans leur cible, bordel. C'est vraiment pas dans leur cinéma.
Non, mais on s'en fout.
Alors, Canal Plus Cinéma qui diffuse Millennium, l'homme qui n'aimait pas les femmes, en rapport avec le livre, la version de Daniel Craig.
Ah si oui, d'accord.
La version américaine avec de Dean Fisher. Si on a l'occasion de le voir, c'est toujours un bon moyen. Je vais continuer sur Canal Plus Club qui diffuse Le Chat du Rabbin, adapté de la BD.
Johann Sfar, oui.
Johann Sfar. Moi, je vais te dire, si je l'avais à la chaîne, je serais allé le voir parce que je l'ai toujours. Moi, personnellement, je l'aurais toujours pas vu. Mais si y en a qui
l'ont. Moi, j'ai pas vu la BD, j'ai pas vu le film, donc.
Il faut que je me le mate.
Mardi. Alors, tant qu'on est sur les mardi, là, c'est un truc un peu plus super héros et équivalent. Iron Man Sur W9 versus Superman 2, l'aventure continue sur NT1.
D'accord, du full frontal, ok.
Les chaînes de TNT s'embêtent pas, et en plus c'est deux classiques, l'un récent, l'autre un peu ancien. TV Braise, la chaîne de TF1, lui propose SOS Fantôme, deux films.
Le diptyque, ouais.
Mais le 2 d'abord, le 1 ensuite.
Mais non.
C'est l'horreur. Sur Action, on continue sur Star Trek. Star Trek Génération, si on l'a loupé sur Arte, on peut toujours éventuellement le...
Super.
Ah oui, il est merdique.
Alors, pour vraiment du classique, il y a Les Rôdeurs de la Plaine avec Elvis Presley, un des films où il apparaît. Donc, si on veut voir comment le jeu d'acteur de cette star, c'est sur Ciné Classique, c'est mardi à 20h45. Juste pour voir Elvis, pour se dire à quelle gueule un peu ça il avait. En dehors des pochettes qu'on peut trouver au fin fond d'un grenier. Mercredi. Non, je vais pas le dire ça. C'est Top Gear sur RMC Découverte, oui,
c'est la version américaine qui est pas géniale.
Canal Plus qui diffuse Dictator, l'œuvre. Comment il s'appelle
Sacha Baron Cohen.
Ouais.
Ouais.
Bon, première diffusion, donc. Après, moi, je sais que j'ai pas du tout accroché sur ce truc-là, mais ça peut toujours être un bon moment à passer. Sur Syfy, à 20h50, Land of the Dead, le territoire des morts. Si on aime bien.
Romero, le vrai, l'unique. Land of the Dead, c'est Romero. Ouais. C'est Romero qui se remet aux zombies.
Si on aime bien Walking Dead ou Left 4 Death ou tout.
Ouh là là. Non, il faut pas présenter ça comme ça. Il faut dire le gars qui a inventé les zombies, c'est Romero, et il revient, il refait des films. Voilà, c'est tout. tu dis pas dans une chronique sur Romero dire Walking Dead. Dead, c'est un ersatz. Voilà.
Et oui, on a un animateur qui a vraiment le A rouge aux fesses là en ce moment. En apprentissage.
Oui.
Allez, continue.
Ciné plus premier, Conan avec Jason Momoa. Je t'explique, je l'ai sélectionné uniquement pour dire voilà comment on essaye de virer un autre star et on n'y arrive pas.
Jason Momoa qui est bien meilleur en Khal Drogo dans Game of Thrones.
Pas faux. Jeudi,
il n'arrive pas à relire ses notes. Pendant ce temps-là, je vais spoiler Throne of War puisque quelqu'un a lu pour moi le. Thomas, non, lâche ce flingue.
C'est marrant, t'as dit Throne of War, c'est bien. C'est bien.
La fatigue.
Sur OCS Novo, Greenberg avec Ben Stiller. Alors là, c'est un truc vraiment. J'ai vraiment trouvé peu de choses.
Peut zapper.
Non, il y en a
non,
un.
Mais il fait beau, jeudi.
Il y en a un. NT1, Scary Movie 4 pour ceux qui aiment bien la série. Moonwalker.
Oui, celui-là il est rigolo. Oui.
Moonwalker avec Michael Jackson sur CineFX. Pour ceux qui voudraient voir à quoi ça ressemblait. Ça ressemble. Et sur 13ème rue, il y a Urban Justice avec Stephen Seagal. Pour ceux qui veulent savoir, on sait jamais.
Ouais, jusqu'à quel angle il arrive encore à lever la papate.
Vendredi sur Ciné Plus Premier à 20h40, Layer Quake avec Daniel Craig. Alors
Layer Cake, pas Quake. Quake c'est le jeu. Layer Cake.
Voilà. Ça m'arrive aussi moi aussi dire Quake au lieu de Cake.
De Matthew Vaughn qui a fait aussi X-Men Origins, et Kick-Ass, et donc le film qui a lancé
Daniel Craig.
Internationalement Daniel Craig. Ouais.
Daniel Craig, voilà. Sur TCM Cinéma toujours 20h40, Règlement de compte à OK Corral. Alors c'est le gros western. C'est la référence dans les... Hop là, j'en touche mon micro, dis donc, c'est pas vrai. C'est vraiment la grosse référence au niveau du western. Si on n'a pas vu ça, c'est qu'on n'a pas vu des westerns, quoi.
Avec qui?
Avec Burt Lancaster, Kurt Douglas, Joe Van Fleet, Rhonda Fleming.
Oui, le casting en or massif.
Voilà. Platine même.
Ouais. Alors Platinum. Pour faire comme du spa, faut dire c'est du bon, du lourd, du tatoué.
Voilà.
On le recycle dans une autre émission quand même.
Je vais finir par RTL9 qui fait une Police Academy 5. Bon, Au moins, c'est l'acteur de Provenza. Et ensuite, je finis par OCS Shock.
Oui, c'est vrai, oui, en plus. Oui.
On finit par OCS Shock, où c'est terminé avec Steven Seagal.
Steven Seagal, pas mal.
Rajoute que j'ai un Horis de Seagal.
Oui, c'est pas mal. Je l'ai marqué.
Moi, c'est bon. Là, j'en ai fini. Je souffre, c'est vraiment difficile. Déjà la sélection.
Bon, c'est une rythmique à prendre. Le premier truc, c'est t'acharnes pas à la limite à zoner systématiquement le cast. Ce que fait du sport, des fois, c'est un petit peu agaçant. Et tu vois que c'est.
Oui, hein? Non, c'est vrai.
Des fois, vaut mieux balayer. Je dis, bon, allez, hop.
Ouais.
Bon, mais t'inquiète, ça viendra.
Non, alors. J'apprends.
13h24, t'as quand même bien tenu.
Wouhou.
Voilà, vous écoutez Radio FMR sur 89.1 MHz. Semaine prochaine, donc normalement spécial Star Trek, où on va parler la conquête de l'espace, de la fiction à la réalité, avec peut-être une équipe donc du CNES. Mais on sera le soir même à partir de 18h au Mixar Miris. À 18h, il y a donc un apéro avec de l'expérimentation et donc des installations. Il y a le petit théâtre de pain, il y aura les boudeuses, il y aura les lélés, Fat Pot Shondakime, donc une belle performance, pochoir géant, peinture au canon. Et ensuite des concerts jusqu'à 2h du matin avec l'international hyper rythmique, les Sex Quistos, Saquon Vanzetti, Gaze Monet, Chip Chaser, The Rusty Bells. Oh non, The Rusty Bells, waouh, ça va être super. Et Shinobis pour terminer. Tout cela, ce sera sur place à l'espace Miris, entrée libre selon votre participation. Mais ils mettent soirée anniversaire, mais je me demande bien anniversaire de quoi, puisque FMR c'était un soir de novembre en 80.
Vous aussi, amis auditeurs, venez découvrir les coulisses de la réalisation du supplément week-end, et pourquoi pas improvisez-vous animateur en découvrant en direct des flyers. Dire oh ouais, ça a l'air bien, oh non, ça c'est...
non, sérieux, il y a une super prog, et de ce que je sais,
il n'y a pas des flyers là que je fasse pareil là.
T'avais qu'à les choper là-haut. En tout cas, j'espère qu'il fera beau. Et pour profiter vraiment, et en plus, il y aura une émission en direct à la radio. Donc, les émissions seront en direct sur place à partir de 19h, du coup. Donc, n'hésitez pas pour venir et un peu boire un pot avec nous. Enfin, j'espère surtout que vous allez nous l'offrir. Bref, voilà.
Surtout.
Voilà.
Et oui, ma foi, moi c'est la fin. J'ai résumé de l'émission. Si vous nous avez chopé en cours de route.
Oui, parce qu'il y en a qui ont écouté en diagonale, il y en a qui arrivent en plein milieu.
Si vous avez fait vos courses pendant que vous nous écoutiez, ben voilà ce que vous avez loupé depuis le début de l'émission. Nous avions une émission avec des frics, la première chronique BD et TV de Festigrunt, bravo à lui. Un manchot mutilé des loups-garous, du fanservice, une mutante qui pond des toiles d'araignée, une foire aux monstres sans ou mais avec du blablabla. Du Throne of War, un Chuck et deux Steven, yeah, on a les quotas.
Ma foi, oui. Bah oui, mais j'y crois pas.
Une émission d'un fort beau gabarit que nous avons fait à 3
voilà, la semaine prochaine, il faut au moins que j'ai des BD, quoi.
Ouais, la semaine prochaine, on va chroniquer des gants en pyjama avec des pistolets en carton, super.
Et des
Kick to Enterprise, Teleport, Beam me up.
Et puis des gars avec des visages en plastique et des oreilles pointues, super.
Non, ça c'est Battlestar Galactica. Non, c'est pas...
Non,
mais j'ai hâte de voir ce que Thomas va chroniquer comme film avec comme tagline le spectacle est total.
Ah, le spectacle est total, il y en a beaucoup des taglines pour les films.
Ça va être un costaud.
C'est inquiétant, mais ouais, surtout mais que façon, le mec qui l'a écrit ne l'avait pas encore vu le film à ce moment-là.
Oh, bah comme toujours, mais de toute façon, tu as vu que le méchant c'est l'acteur de ta série.
Ouais, je sais, mais c'est pour ça que j'y vais. Non, mais qu'est-ce que tu crois?
Oula.
Vous écoutez Radio FNR sur 89.1 MHz. Nous sommes en direct sur cette fréquence toulousaine et en alternance avec Booster FM. Mais vous nous retrouvez aussi en continu sur www.radio-fmr.net pour le stream en permanence. Là, dans le prochain épisode, on va se téléporter dans l'espace, ça vous l'avez compris, donc on se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Ciao à vous, ciao, bye bye, merci à Ultimatum et surtout merci à FSF Grunt.
Merci les gars,
qui a dû en chier.
Et on s'auto-congratule en nous applaudissant nous-mêmes et en passant
non. Non, on va
surtout. Bravo les gars, super, bravo!
Non, on congratulera surtout Morgan à une seule condition. qu'il réussisse ses examens.
Et voilà. Ouais, il y en a encore qui sont dans les études. Bonne chance à toi, j'espère que tu n'auras pas beaucoup pris de retard sur tes révisions en nous écoutant. J'espère que tu nous auras écouté, sinon tu es un traître.
Il y a intérêt pour lui.
Ouais, il y a intérêt parce que je l'ai remplacé là.